when the first airplane flew for 60 seconds.
C'est comme quand le premier avion a pris son envol, même pour 60
secondes. You knew then it was possible to have an airplane that would fly for 10 hours.
Dès lors, on savait qu'un avion pourrait voler pendant 10 heures.
Hello, this is Roberta Peters. If you want to hit a high note for safety, please buckle up your seatbelt.
Et c'est quoi? C'est quoi cet avion dont parle Ward Zinn? Cet avion qui a volé et qui revolera probablement un jour? Eh bien, c'est un autre monde, l'autre monde possible. Et qu'est-ce qui lui fait dire ça? Eh bien, c'est qu'il est historien. Et c'est au sujet de la Commune de Paris. Nous parlions de la Commune de Paris. Et nous parlions de Barcelone, en Espagne, durant la guerre d'Espagne. Nous parlions, nous cherchions des exemples du moment où, dans notre histoire, il y a eu des références, quelque chose qui pourrait nous servir de modèle pour l'un de ces mondes possibles dont certains rêvent, dont certains, beaucoup, ne cessent de penser. L'image qu'a trouvée Howard Dean, c'est celle-là. Bien sûr, l'avion n'a pas volé longtemps, mais dès lors qu'un avion peut voler, eh bien, tous les espoirs sont permis. Une belle métaphore. On va passer une heure avec cet homme absolument extraordinaire. Peu d'hommes dont que vous rencontrez qui, à travers lesquels passe un souffle aussi puissant, vraiment le souffle de l'histoire. L'histoire populaire des États-Unis, c'est l'histoire des États-Unis comme on l'ignore. Voilà, exactement comme on l'ignore. C'est-à-dire vu par le bas, vu par les gens, vu par le peuple, vu par les femmes, vu par les noirs, vu par les petites gens, comme on dit, vu par les ouvriers, vu par ceux qui ne racontent jamais l'histoire, puisque, aussi bien on le sait, l'histoire est racontée toujours par les puissants. Par exemple, j'ouvre presque par hasard le livre de Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis, et je tombe sur le débarquement. Lorsque les Américains arrivent en France, eh bien, il nous dit que dans les forces armées américaines, les Blancs et les Noirs restaient séparés au moment de cette intervention. Lorsqu'au début de 1945, les troupes ont été embarquées sur le Queen Mary pour aller combattre sur le sol européen, eh bien, les soldats noirs prirent place dans les profondeurs du navire à côté de la salle des machines, aussi loin que possible de l'air frais du pont, dans une sorte d'étrange remake des transports d'esclaves d'autrefois. Voilà, tout Howard Zinn est dans cette image. Le Queen Mary arrive vers l'Europe pour sauver l'Europe, mais à l'intérieur du navire, les Noirs sont dans le fond, c'est encore la ségrégation, et ils voient là, évidemment, un rapprochement avec le commerce du bois d'ébène. Il va plus loin encore, il nous raconte comment la Croix-Rouge, avec l'accord du gouvernement américain, ne mélangeait pas le sang des Noirs avec le sang des Blancs. Ironie de l'histoire, continue Howard Zinn, c'est un certain Charles Drew, un médecin noir, à qui l'on devait le développement du système du prélèvement sanguin. Il avait été chargé pendant la guerre de l'organisation des dons du sang et il fut remercié après avoir essayé de faire cesser la ségrégation dans ce domaine. Une résistance, la résistance d'un médecin. Tout ce livre raconte les résistances de 1492 à nos jours. Et alors il commence avec l'arrivée de Christophe Colomb, l'actuel Bahamas, et il va jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que Howard Zinn est presque un journaliste. Il continue de raconter l'histoire de la guerre en Irak, de ce qui se passe dans ces jours-ci. Et il est à la fois un historien de l'immédiat et un historien du temps long. Et c'est entre ces deux temps-là qu'on va se retrouver, entre ces deux tensions du temps long et de l'immédiat, entre ce que nous faisons, nous pouvons, nous, peuple faire sur l'histoire et ce que l'histoire fait pour nous. C'est jusqu'à 18h, c'est sur France Inter, Howard Zinn, une histoire populaire des États-Unis. He makes a company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Howard Zinn, je voudrais qu'on commence tout de suite par le titre. Une histoire populaire des États-Unis. Et pour nous, populaire, c'est un mot déjà un peu douteux, qui rappelle un peu les démocraties populaires. Maintenant, populaire, c'est comme populiste. Est-ce que c'est les mêmes réserves qu'on fait aux États-Unis sur l'usage de ce mot?
In the United States,
aux États-Unis,
the book is called A People's History of the United States. Une histoire du peuple.
C'est plus une histoire du peuple qu'une histoire populaire.
Les éditeurs français,
l'a
donné le titre, histoire populaire. For me, the word means history of the ordinary people in the United States.
Cela signifie une histoire des gens ordinaires aux États-Unis.
Une histoire des gens ordinaires. Votre but, c'était de faire une histoire par le peuple, pour le peuple.
That's the definition of democracy.
Oui, c'est ça la définition de
Abraham Lincoln. Government of the people, by the people, for the people.
Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple.
Et c'est le but du livre.
The goal of the book is to show, in fact, that we do not have government of the people in the United States.
Le but de ce livre, c'est de démontrer que justement, il n'y a pas de gouvernement par le peuple.
We do not have government for the people of the United States.
Nous n'avons pas un gouvernement pour le peuple aux États-Unis.
Pourtant, vous êtes une démocratie.
Maybe.
Mais
yes and no.
Oui et non. Yes and no.
Pourquoi ce n'est pas une démocratie?
Oh, because, and in my book, I explain this, that the founding fathers did not intend to have a democracy.
D'abord, et je l'explique dans le livre, les pères fondateurs n'avaient pas pour intention de mettre en place une démocratie.
The men who created the Constitution of the United States in 1787.
Les hommes qui créèrent la démocratie aux États-Unis en 1777.
Did not want a democracy.
Ne voulaient pas la démocratie.
They wanted a strong central government that would serve the interests of the elite.
Ils voulaient un gouvernement fort, centralisé, qui serve les intérêts de l'élite.
Because those 55 men who wrote the Constitution.
Car ces 55 hommes qui écrivaient la Constitution
they did not represent the people.
Ne représentaient pas le peuple.
They were slave owners,
ils étaient propriétaires d'esclaves,
merchants,
des marchands,
land speculators,
des spéculateurs terriens,
bondholders, and they were afraid of rebellion.
C'était aussi des actionnaires et ils avaient peur des rébellions.
Yeah. In fact, the year before the Constitution was made, there was a rebellion in Massachusetts.
En fait, l'année qui a précédé la Constitution, il y a eu une rébellion dans le Massachusetts.
1786.
1786.
Yeah. That rebellion in 1786 frightened the leaders of the American Revolution.
Et cette rébellion a vraiment effrayé, a fait très peur aux dirigeants de la Révolution.
And they wrote letters back and forth to one another.
Ils se sont écrits les uns les autres.
One of those letters,
et l'une de ces lettres,
to George Washington,
adressée à George Washington,
said, these rebels, they are veterans of the Revolutionary War against England.
Il disait, mais vous savez, ces rebelles, ce sont des vétérans de la guerre révolutionnaire contre les Anglais.
And they think that because they fought in the Revolution, they deserve an equal share of the wealth of the country.
Et ils pensent que parce qu'ils ont participé à cette guerre révolutionnaire, une partie de la richesse de la nation leur est due.
We must not allow this.
Et on ne peut pas permettre ça.
Yeah. And so we will create a government which will be able to suppress rebellion.
Et c'est pourquoi nous allons créer un gouvernement qui aura les moyens de réprimer.
Avec seulement 50 hommes, nous pourrions les soumettre tous et leur faire faire tout ce que nous voulons. Au départ de cette histoire, celle qui a conduit à cette musique joyeuse et on ne peut plus américaine, eh bien, il y a cette phrase qu'écrivait Christophe Colomb lorsqu'il rencontra pour la première fois les Indiens Arawak en 1492. Et à l'autre bout du livre de Howard Zinn, il dit une chose toute simple. Il dit 1% de la population américaine détient un tiers de la richesse nationale. C'est quand même pas mal. 1%, je le répète quand même, 1% de la population américaine détient un tiers de la richesse nationale. Le reste est réparti de telle manière que les 99% de la population restante soient montés les uns contre les autres. Malgré la réalité de cette lutte amère et désespérée de ces 99% divisés et qui luttent les uns contre les autres, eh bien, autour de rares ressources épargnées par les élites dominantes, je prends la liberté de réunir ces 99% d'Américains sous l'appellation de peuple. Voilà ce qu'il entend dans le titre de son ouvrage, une histoire populaire des États-Unis, c'est-à-dire une histoire du peuple américain. Alors ce peuple, eh bien, bon, ce sont les Indiens, ce sont les esclaves en fuite, ce sont les soldats déserteurs, c'est les ouvrières, les jeunes ouvrières du textile, c'est les syndicalistes, c'est les GI du Vietnam, et puis c'est les activistes des années 80-90 qu'on a vus lors des manifestations à travers les États-Unis contre la guerre du Vietnam. Alors ce livre va de Christophe Colomb à George Bush, notre George W. Bush d'aujourd'hui, et c'est tout ça qui est raconté par le peuple, vu d'en bas, hein, l'Amérique d'en bas, le contraire de cette Amérique qui à laquelle nous serions identifiés ou assimilés lorsqu'on nous avait dit « nous sommes tous des Américains ».
The word President Bush is now using to describe these suicide plane strikes on the World Trade Towers and the Pentagon. And the stakes could not be higher. A White House spokesman says intended targets included the White House and Air Force One.
Dans votre livre, Howard, vous commencez en 1492 et vous dites jusqu'à maintenant. Et régulièrement, vous rajoutez des chapitres sur ce qui se passe. Ça finit presque par un journal. Vous travaillez presque comme un journaliste dans l'histoire immédiate. Là, vous évoquez les fondements de la démocratie américaine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez considérer que les États-Unis d'Amérique sont une démocratie?
Today, the United States is sometimes a democracy and sometimes not a democracy.
Aujourd'hui, les États-Unis sont parfois une démocratie, parfois une non-démocratie.
But, you know, in general, the government of the United States today is a government which is controlled by the powerful corporations in the United States.
Mais en général, le gouvernement américain aujourd'hui est contrôlé par les grandes multinationales.
And both political parties, the Republicans and the Democrats, they are both connected to the great corporations.
Et les deux partis politiques principaux, les républicains comme les démocrates, sont tous deux contrôlés par les grandes multinationales.
And so the political process in the United States is not a democratic political process because money controls it.
C'est pourquoi le processus politique aux États-Unis n'est pas un processus démocratique puisqu'il est contrôlé par des moyens financiers.
It is almost impossible for a third party candidate. If he's not a Democrat or a Republican, almost impossible for a third-party candidate to get votes in the election.
Et c'est pourquoi pour un troisième parti, il est quasi impossible, en fait, de proposer un candidat qui puisse participer aux élections.
It's ironic because the United States says it wants free elections everywhere.
Quelle ironie pour un pays qui défend et qui
veut des élections wants free elections
libres.
In Iraq.
qui appelle à des élections libres en Irak.
But we don't really have free elections in the United States.
Alors que aux États-Unis même, nous n'avons pas de véritables élections démocratiques.
Another thing about democracy. Democracy requires a free exchange of ideas.
Quelque chose d'autre à propos de cette idée de démocratie. Une démocratie exige un échange libre d'idées.
But it is very hard in the United States to have a free exchange of ideas when the major newspapers and the major television stations are controlled by people of great wealth?
Mais comment avoir un échange libre d'idées quand la majorité des médias, des radios, des journaux est contrôlée par une minorité?
So the question of democracy is not a yes or no, it's a question of how much. And so if the major media are controlled by the wealthy corporations, but we who are outside of that circle have a little democracy.
Donc ce n'est pas une question de oui ou non, est-ce que nous sommes en démocratie, mais de à quel niveau, à quel, comment est-ce qu'on peut mesurer en fait notre implication dans cette démocratie. Pour nous qui sommes à l'extérieur du cercle de ceux qui contrôlent les moyens d'expression démocratique, nous n'avons pas les moyens en fait d'y participer.
Quand vous dites vous, c'est qui, de qui parlez-vous?
When I say we, I mean the opposition in the United States.
Quand je dis nous, je parle de l'opposition aux États-Unis.
Yeah. I mean the people who are against the war in the United States.
Je pense à ceux qui sont contre la guerre aux États-Unis.
I mean the people who want a more equal division of the wealth in the United States.
Je pense à ceux qui exigent une répartition plus équitable de des richesses aux États-Unis.
The people who want to reform the prison system, the judicial system in the United States.
Je pense à ceux qui veulent réformer le système judiciaire, les prisons aussi aux États-Unis.
Et pourtant, les États-Unis d'Amérique ont l'image du pays le plus libre. Le monde libre,
but still the United States
où on peut dire ce que l'on veut, c'est le pays du cause toujours.
Yes. Well, this is an image which is cultivated by the United States. The United States presents this image all over the world.
C'est une image qui est cultivée par les États-Unis et la présente à travers du monde entier.
A manufactured image, you see.
C'est une image fabriquée, voyez-vous.
Yes, we, the opposition.
Oui, nous, l'opposition.
We can have a meeting and speak to 1,000 people.
Pouvoir organiser des meetings et s'adresser à un millier de personnes.
Or 3,000 people.
Voire 3,000 personnes.
Bush can speak to 20 million people.
Bush peut s'adresser à 20 millions de personnes.
Yeah. Pourtant, votre livre. Votre histoire populaire des États-Unis ou votre histoire du peuple américain a un grand succès aux États-Unis. Vous êtes un million d'exemplaires. Depuis 1980, le livre se vend très bien. Enfin, c'est un succès de librairie et un succès populaire et un succès universitaire. Enfin.
Oh, merci beaucoup. consider this.
Mais regardez.
A million people in the United States. Is not a majority of the population.
1 million de personnes aux États-Unis, ça n'est pas la majorité de la population.
And no major television station and no major radio station has said anything about my book.
Et aucune station de radio, des médias principaux ou bien de la télévision n'a dit un mot sur mon livre.
Yeah. Mm-hmm. But, it's. I don't want to be totally pessimistic.
Mais je ne veux pas être pessimiste pour autant.
Because we must recognize that there exists in the United States an opposition of millions of people.
Car il faut reconnaître qu'aux États-Unis aujourd'hui, il y a une opposition qui regroupe des millions de personnes aux États-Unis aujourd'hui.
And too often people in other parts of the world, people in Europe and other parts of the world,
et bien trop souvent,
do not see this opposition.
Les gens en Europe ou dans d'autres parties du monde ne voient pas, en fait, cette opposition.
C'est vrai que les figures de l'opposition américaine aux États-Unis, qui nous parviennent, c'est des stars. C'est Michael Moore.
Oh, yes.
C'est Chomsky, Noam Chomsky, et peut-être vous bientôt. Vous n'êtes pas encore une star ici, désolé. Mais c'est pas le peuple. On voit pas des mouvements syndicaux ou des mouvements associatifs. Votre mouvement Not in Our Name est parvenu un tout petit peu dans l'opinion française à un moment où notre gouvernement émettait des réserves sur l'offensive en Irak. Dans cette condition et uniquement dans cette condition, Not in Our Name est rentré un petit peu dans l'opinion. Quelle est la réalité de cette opposition aux États-Unis?
The stars, naturally.
Ces stars dont vous parlez
are best known.
sont évidemment très connus.
Because in, you know, modern culture, stars are important.
Parce que dans la culture moderne, les stars sont importantes.
But behind the stars in the United States, there are real people. There are millions of people.
Mais caché derrière ces stars, il y a de vrais gens, des millions de gens.
Even before the war began in Iraq, there were demonstrations of hundreds of thousands of people all over the country.
Et bien avant que la guerre n'éclate en Irak, il y avait des manifestations aux États-Unis de centaines de milliers de personnes.
And if you consider that for every person who is so energetic as to go to a demonstration,
alors considérez pour toute personne qui a suffisamment d'énergie pour aller à une manifestation,
there are 50 people who feel the same way.
Pour chacune de ces personnes, il y a bien 50 personnes qui ressentent la même chose.
So that's why I say, there are millions of people in the United States who are opposed to the war.
C'est pourquoi je dis qu'il y a des millions de gens aux États-Unis qui sont opposés à la guerre.
It's true we don't have a strong trade union movement in the United States.
C'est vrai que nous n'avons pas un mouvement syndical organisé et fort.
And then that's a weakness in the movement.
C'est vrai que c'est une faiblesse du mouvement aux États-Unis.
We don't have central organization for the movement in the United States.
Nous n'avons pas d'organisation centralisée aux États-Unis du mouvement.
But we have anti-war activity taking place all over the country in the smallest of towns.
Mais nous avons une activité anti-guerre dans les plus petites des villes américaines.
So here's a toast to all the folks that live in Palestine, Afghanistan, Iraq, El Salvador. Here's a toast to all the folks living on the Pine Ridge Reservation, under the stone cold gaze of Mount Rushmore. Here's a toast to all those nurses and doctors who daily provide women with a choice, who stand down a threat the size of Oklahoma City just to listen to a young woman's voice. Here's a toast to all those folks on death row right now, awaiting the executioner's guillotine, who are shackled there with dread and can only escape into their heads to find peace in a form of a dream. Peace in a form of a dream. Peace in the form of a dream. Cause take away our PlayStations and we are a third world nation, under the thumb of some blue blood royal son who stole the Oval Office and that phony election. I mean, it don't take a weatherman to look around and see the weather. Jeb said he'd deliver Florida, folks, and boy, did he ever. And we hold these truths to be self-evident. Number one, George W. Bush is not president. Number two, America is not a true democracy. And number three, the media is not fooling me, cause I am a poem heeding hyperdistillation, and I've got no room for a lie so verbose. Yes, I'm looking out over my whole human family, and I'm raising my glass in a toast. Here's to our last drink of fossil fuels.
Une autre Amérique, un autre regard sur l'Amérique et une autre histoire de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, une histoire populaire des États-Unis par Howard Zinn, historien qui a 80 ans aujourd'hui, qui a enseigné l'histoire et les sciences politiques à la Boston University et dont il est aujourd'hui professeur émérite. Un bouquin absolument formidable qui qui sort aux éditions, qui sont il y a quelques mois déjà, aux éditions Agone, et que je vous conseille vraiment très chaudement. Dès le début du bouquin, Howard Dean nous dit carrément les choses. Il dit, l'historien ne peut pas ne pas insister sur certains événements au détriment des autres. Il n'essaye absolument pas de se mettre dans la posture d'une quelconque objectivité, d'un surplomb scientifique. Non, il est sur le terrain, il est un homme engagé, il est un homme qui connaît la vie quotidienne des États-Unis. Il a été docker, il a été engagé dans l'armée américaine, il nous le racontera. Donc il sait de quoi il parle, il sait physiquement de quoi il parle, et il sait bien qu'on ne peut pas ne pas privilégier un événement d'une façon tout à fait et qu'il n'y a pas d'objectivité. Donc c'est un homme engagé qui regarde l'Amérique et qui la regarde de l'autre côté, d'en bas, et c'est assez rare. Ça peut paraître extraordinaire dans avec l'idée de démocratie qui vient tout de suite quand on dit le mot, quand on prononce l'expression États-Unis. Eh bien, c'est un autre regard et qui court tout au long de ce livre, mais à travers des histoires. Je vous en ai raconté, mais toutes les 15 lignes, 20 lignes, on trouve une histoire de l'histoire des États-Unis, et tout au long du livre, les réflexions de cet auteur engagé qu'est Howard Dean.
Hello, this is Roberta Peters. If you want to hit a high note for safety, please buckle up your seatbelt.
Je voudrais qu'on parle maintenant plus étroitement de votre approche de l'histoire. Et vous racontez l'Amérique d'en bas. Vous racontez ce que l'histoire fait sur le peuple et ce que le peuple fait sur l'histoire.
Yeah.
C'est vrai que l'histoire est racontée par les vainqueurs. Mmh. Et les vainqueurs, ben, c'est le pouvoir, ce sont les dominants, ce sont les conquérants. Et notre histoire à nous nous est racontée de cette façon. Et l'histoire des États-Unis est racontée de cette façon. Et comme vous dominez le monde, eh bien l'histoire américaine vous est racontée de cette façon.
Exactly true.
Absolutely.
Because I wanted to show the victims of the society.
Je voulais montrer les victimes de la société.
No, I wanted to show the Indians, the indigenous people who were annihilated.
Je voulais montrer les indigènes, les Indiens, et comme ils ont été annihilés.
As the Americans moved across the country.
Parce que les Américains sont entrés sur le territoire et ont évolué.
But I also wanted to show that these Indians resisted.
J'ai aussi voulu montrer comment ces Indiens ont résisté.
In the 1960s.
Dans les années 1960.
When it was considered that the Indians had disappeared.
Alors qu'on considérait que les Indiens avaient disparu.
That they had been annihilated.
Ils avaient été complètement annihilés.
Suddenly an Indian movement became evident.
Soudain, un mouvement des Indiens revint sur le devant de la scène.
But today, all over the United States, when there is Thanksgiving Day, there are Indians who speak up and protest.
Lors des Thanksgiving Day, lors de ces jours fériés aux États-Unis, les Indiens prennent la parole.
You know, which is a traditional holiday, and in which the myth is of how generous the European settlers were to the Indians.
C'est un jour férié. En fait, le mythe qui court sur ce jour férié, c'est à propos de la générosité des premiers colons européens quand ils sont arrivés aux États-Unis. C'est leur générosité.
Yeah. And the same thing is true for other groups in the United States, where I show black people as victims of American society.
Et je tente de faire la même chose avec d'autres groupes de la société américaine, notamment les noirs, que je montre comme des victimes de la société américaine.
But I also try to bring out the hidden stories of how they resisted slavery and then how they resisted segregation.
Et je cherche aussi à exhumer les épisodes cachés de la façon dont les Noirs ont résisté à l'esclavage et plus tard à la ségrégation.
For instance, the myth in the United States is that Abraham Lincoln freed the slaves.
Un grand mythe de l'histoire américaine concerne le fait qu'Abraham Lincoln aurait été le libérateur des esclaves noirs aux États-Unis.
And the reality is that Lincoln was very slow to act.
La réalité, en fait, c'est qu'Abraham Lincoln a vraiment été très, très, très long pour agir.
And what actually happened was that there was a great movement, anti-slavery movement, of black people and white people.
En fait, il y a eu un grand mouvement contre l'esclavagisme de la part des Noirs et des Blancs.
Which created a great pressure on Lincoln and on the Congress.
Et c'est ce qui a mis la pression, en fait, sur Lincoln et sur le Congrès américain.
And the result was the Emancipation Proclamation, and the result was a change in the United States Constitution.
C'est ce qui a amené à la proclamation d'indépendance et à la modification de la Constitution américaine.
I ain't got no home, I'm just a roaming round. Just a wandering worker, I go from town to town. And the police make it hard wherever I may go. And I ain't got no home in this world anymore. My brothers and my sisters are stranded on this road. A hot and dusty road that a million feet have trod. Rich man took my home and drove me from my door. And I ain't got no home in this world anymore. Was a farming on the shares and always I was poor. My crops I lay into the banker's store. My wife took down and died up on the cabin floor, and I ain't got no home in this world anymore. Now as I look around, it's mighty plain to see, this world is such a great and a funny place to be. All the gambling man is rich and the working man is poor, and I ain't got no home in this world anymore.
C'est-à-dire que tout au long de votre livre, vous racontez des résistances aussi, pas seulement des peuples éternellement victimes. Parlez-moi du parti pris de l'historien. L'historien choisit des faits. Il n'y a pas d'objectivité historique.
No, it's interesting that when you go to school in the United States, you are given a textbook of history.
Quand vous allez à l'école aux États-Unis, on vous donne un manuel d'histoire.
Which is very fat.
Qui est très épais.
And you then deceived into thinking that it is all there, the history, the entire history.
Tout est là dans ce livre. L'histoire entière des États-Unis tient dans ce livre.
And you are not told that so much has been omitted.
Et on ne vous dit pas que tel et tel aspect de l'histoire américaine a été omis.
You know, but as soon as you begin to think about the process of writing history.
Et dès lors que vous commencez à réfléchir au processus qui amène à écrire l'histoire,
you realize that objectivity is impossible.
Vous vous rendez vite compte que l'objectivité est impossible.
Because the historian, like the journalist, has to select out of an enormous number of facts and decide what is important.
Car l'historien, comme le journaliste, doit sélectionner dans une masse énorme de faits ce qu'il va mettre en avant.
And so the history books have always reflected what the upper classes thought was important.
C'est pourquoi les livres scolaires ont toujours reflété ce que les classes dirigeantes ont considéré comme primordial.
On a l'impression que pour les puissants, l'instrumentalisation de l'histoire est indispensable pour accéder à la puissance, au pouvoir, ou pour s'y maintenir.
Yeah, that's exactly true.
Exactement, c'est tout à fait ça.
And so, when they're telling the story of the economic history of the United States, they emphasize the work of Rockefeller, Carnegie, Morgan, the great entrepreneurs.
C'est pourquoi dans l'histoire économique des États-Unis, ce qui est souligné, ce sont les faits d'armes des grands entrepreneurs.
Les barons voleurs.
The robber barons. Yes, exactly. But they don't call them robber barons. They call them captains of industry.
Mais on ne les appelle pas les barons voleurs, on les appelle les capitaines de l'industrie.
Yeah. Vous avez tout un chapitre, vous racontez notamment l'histoire de Morgan.
But they leave out of the history books the fact that all of the great strikes that took place in the United States.
Mais ce qu'ils omettent, ce sont toutes les grandes grèves de l'histoire américaine.
Bloody, violent strikes.
Très sanglantes.
In which the working class faced the police, the army.
Et la classe ouvrière s'est confrontée à la police, s'est confrontée à l'armée.
And that's how the 8-hour day was won.
Et c'est exactement comme ça qu'on a gagné la journée de 8 heures.
Vous racontez l'histoire du 1er mai.
Yeah,
c'est une invention américaine, le
1er mai. Exactly. The 1st of May came out of those struggles.
Exactement, le 1er mai, il a émergé de ces grandes luttes.
But if you don't know about those struggles, you think that the 8-hour day was a gift to the working class.
Mais si vous ignorez tout de ces grandes grèves, vous pensez simplement que la journée de 8 heures a été donnée généreusement par les dirigeants.
So when you omit these struggles, you create a population which is passive, which is waiting for gifts from the people who run the country.
C'est pourquoi en omettant ces grandes luttes, vous créez une population qui est passive et qui attend.
À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera, et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, ta punaise. Est-ce que c'est bien clair?
Chef, oui, chef!
Mon cul, je n'entends rien. Montrez-moi que vous en avez une paire.
Chef, oui, chef!
Aujourd'hui, quel sens vous donnez à votre travail? Une éducation politique, une morale?
No, I see my work as a political act.
Je considère mon travail comme un acte politique.
I want my readers to become active participants in history.
Je veux que mes lecteurs deviennent des participants actifs.
I want them to be inspired by social movements.
Je veux qu'ils soient inspirés par les mouvements sociaux.
I want them to have different heroes than they have received in the textbooks.
Je veux qu'ils se choisissent d'autres héros que ceux qu'ils ont reçus par leurs livres scolaires.
Yeah. I want their heroes not to be generals and warriors. I want their heroes to be people who fought against war.
Je ne veux pas que leurs héros soient des guerriers, soient des militaires, mais je veux que leurs héros soient des gens qui se sont battus contre les guerres.
Quand on s'engage, quand on participe à des actions, on ne sait jamais exactement où ça va et à quoi ça sert. Vous parlez de la Commune de Paris, évidemment que ça nous touche, parce que c'est notre histoire la plus proche, à laquelle nous sommes le plus attachés, et bien sûr que à la fois la Commune de Paris a été un échec, mais est-ce qu'on peut considérer qu'une histoire est un échec quand on est en train d'en parler en 2003? Est-ce qu'il y avait un seul communard qui pouvait imaginer qu'un historien américain, en 2003, évoquerait la Commune de Paris et parlerait de la Commune de Paris à ses étudiants et,
We have to have faith that the things that we do will have an effect, even if we can't see them.
Il faut, je crois, qu'on ait la foi dans l'effet que peut produire nos actions.
And you have to keep trying. It's like
il faut continuer à essayer.
Like you're trying to start a fire and you light a match.
Comme quand on essaye d'allumer un feu.
And it doesn't catch.
La première
Nothing
allumette.
Happens. And you light another match and another match and another match and 20 times, nothing happens.
Seconde allumette, troisième allumette, au bout de la vingtième, toujours rien ne se passe.
And then you light a match exactly the way you did before, and the fire starts.
Et puis, on allume une allumette exactement comme on l'avait fait avant, et là, un feu prend.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Encourageant, on va le dire d'un seul mot, ce que nous dit Howard Dean est encourageant. Il a enseigné l'histoire et les sciences politiques à la Boston University. Il est aujourd'hui professeur émérite. Il a dépassé le cap des 80 ans. C'est un homme absolument superbe. On a envie de vieillir de cette façon. Toujours sur la brèche, toujours écrivant, toujours militant, en disant « I am un activiste, je milite ». Et c'est un homme en marche qui, d'une manière extraordinaire,
cite Albert Camus. Il dit, Albert Camus disait, il est du devoir des intellectuels de ne pas se ranger aux côtés des bourreaux. On se demande bien pourquoi cette phrase aujourd'hui nous semble violente. Est-ce que ça voudrait dire que les intellectuels se rangent du côté des bourreaux? Peut-être pas des bourreaux, mais du pouvoir, très très certainement. Alors, vous avez compris, Howard Zinn est de ceux qui s'opposent au pouvoir et qui racontent l'histoire à partir de l'histoire du peuple. Et c'est tout un autre regard, une autre construction, un autre paysage historique qui s'offre à nous.
En vous lisant, on se dit, mais l'idéologie dominante aujourd'hui, ce qui nous domine, c'est l'impuissance. C'est-à-dire que ce que nous nous disons tous aujourd'hui, c'est on ne peut rien changer, on n'y peut rien. Et si on fouille dans notre histoire, on dit, mais on a échoué, on a aimé ces luttes. On a soutenu parfois ces luttes, mais on se dit, force est de constater que nous avons toujours échoué. Et pour que nous ayons ça dans la tête aujourd'hui, il a fallu que vos congénères, historiens et intellectuels, fassent un sacré boulot.
Yeah, unfortunately, of course, that is the impression that is created.
C'est l'impression qui domine, qui est créée.
You know, and in fact, there have been many failures.
Il y a effectivement eu beaucoup d'échecs.
But there have already been extraordinary successes.
Il y a aussi eu des victoires extraordinaires.
Parlons des succès.
Well, you take the 1960s.
Prendre la période des années 60 aux États-Unis.
And I lived in the South in the 1960s in the black community and taught in a black college.
Moi, j'ai vécu dans le sud des États-Unis pendant cette période. J'ai enseigné dans une école noire.
Spelman College, Atlanta, Georgia, right? The deep south.
Yeah. Le sud profond.
Yeah. Oui. And it seemed that black people were powerless.
Il semblait effectivement que les noirs étaient impuissants. Yeah.
White people controlled everything. They controlled the courts, the police, everything.
Les blancs contrôlaient tout, contrôlaient la police et contrôlaient le système judiciaire.
And the national government did not interfere with that control.
Et le gouvernement fédéral n'intervenait pas du tout en fait par rapport à ce pouvoir des blancs dans le sud des États-Unis.
And so when black people decided that they must change their situation, they knew they had to do it themselves.
Et donc quand les noirs ont décidé qu'il fallait qu'ils changent leur propre situation, ils savaient qu'il fallait qu'ils le fassent eux-mêmes.
And so they created little by little a great social movement which galvanized the whole country.
Et peu à peu, ils ont construit un grand mouvement social qui a galvanisé le pays tout entier.
And only when this happened, only when black people themselves organized and demonstrated and went to prison and were killed and were beaten, only when this happened did the federal government finally respond.
Et ça n'est que quand les Noirs eux-mêmes ont commencé à manifester, à se faire arrêter, à aller en prison, ça n'est qu'à ce moment-là, en fait, que le gouvernement fédéral a décidé de faire quelque chose.
And when you go back to the South today, when I go back,
et quand moi je retourne dans le vieux
it's very different.
C'est très très différent.
But it's a really an example of both success and failure.
Et c'est un exemple, en fait, c'est une illustration à la fois des grandes victoires qu'il y a eu, mais aussi des échecs.
Because you can say that the fundamental condition of black people remains the same. Most of them are still poor.
Parce qu'on peut dire aujourd'hui, malgré tout, que la principale condition des Noirs aux États-Unis aujourd'hui est la même. C'est-à-dire que la majorité d'entre eux est encore très très pauvre.
But there are changes, important changes.
Mais en même temps, il y a des changements importants.
Now there are black policemen, now there are black mayors, now there are blacks in the legislature.
On voit des policiers noirs, des maires noirs, des noirs aussi au Congrès.
Now a black person and a white person can walk down the street without worrying.
Maintenant, blancs et noirs peuvent se balader ensemble dans les rues.
When I was there in the late 1950s, this could not happen.
Quand j'étais dans le sud à la fin des années 50, ça c'était impossible.
So, not a complete success, not a complete victory.
C'est pas une victoire totale.
But enough of a victory to prove that it is possible for people without power to gain power and to change things.
Mais c'est une victoire suffisamment conséquente pour prouver que les gens peuvent changer les choses par eux-mêmes.
Résignation, oui, Et non, non, parce que il y a cette inépuisable capacité de résistance des hommes et des femmes, de ceux qu'on appelle le peuple. C'est une permanence dans l'histoire des États-Unis, tel que Howard Zinn la raconte. J'hésite à dire États-Unis parce que cette résistance, on la retrouve partout, derrière l'apparente impuissance. Et face à ces résistances, eh bien, on trouve les ressources infinies d'un système de contrôle, le plus ingénieux système de contrôle de l'histoire du monde, c'est-à-dire le capitalisme, bien évidemment sa capacité de récupération et sans borne, l'autruche capitaliste peut tout avaler. Et voilà l'opposition que Howard Zinn décrit dans cette histoire des États-Unis, tout en soulignant, sans exagération, sans angélisme, qu'il y a des moments de victoire, qu'il y a, comme on le disait dans un passé pas si passé, des avancées.
Well, I spoke already about the 8-hour day won by strikes all over the country in the 1880s.
J'ai déjà parlé de comment la journée de 8 heures a été gagnée.
The time of the robber barons, yes. But also, speaking more recently, I think of the movement against the war in the United States, against the Vietnam War,
which was historic,
which was unprecedented, even in any country.
Sans précédent à
l'échelle mondiale. To have a movement against the war, against the most powerful military, you know, organization in the world.
C'était un mouvement anti-guerre qui se confrontait à la machine militaire la plus puissante du monde.
And that anti-war movement, it seemed powerless.
Et a priori, ce mouvement anti-guerre semblait impuissant.
I remember when we began. I remember speaking at the early part of the war in a meeting in Boston. 100 people showed up.
Je me souviens au tout début de ce mouvement, j'étais intervenu dans un meeting à Boston, 100 personnes.
3 years later, the same place.
3 ans plus tard, au même endroit.
100,000 people showed up.
100,000 personnes sont venues.
The movement became so great that the national government, with all of its power, had to think about whether to continue the war.
Le mouvement est devenu si massif que le gouvernement fédéral a dû reconsidérer, avec tout le pouvoir qu'il avait, son engagement au Vietnam.
Howard, entre le temps long de l'histoire qui parcourt votre livre et l'impatience d'un homme comme vous qui milite, il y a un hiatus entre ce que chacun peut faire dans sa vie, dans son action et son impatience à voir le monde changer, et puis ce temps long de l'histoire. Je voudrais que vous me parliez de ces deux temps. C'est-à-dire, où va l'histoire? Où va l'histoire? L'histoire a-t-elle un sens? Peut-on lui donner un sens? Et qu'est-ce que chacun de nous peut sur l'histoire?
Yeah, that's an interesting question and very complicated. Because yes, there is this sort of, you know, dialectic between the short term and the long term.
Parce qu'il y a effectivement une dialectique entre le court terme et le long terme.
And so, if you think in the short term, you see mostly failure.
Et c'est vrai que sur un temps court, on pense aux échecs.
And so young people today will, you know, look around and say, look, we are at war. Look, we still have racism.
Alors les jeunes aujourd'hui regardent ce qui se passe. Ils disent, mais regardez, on est en guerre. Regardez, le racisme existe toujours. Rien n'a changé.
If you have a perspective of long term of what racism was like 40 years ago.
Mais mettons ça en perspective sur le long terme, si on pense à ce qu'était le racisme il y a 40 ans.
And what it is like today,
then you
see a change has taken place.
Mm-hmm. Alors on voit clairement qu'il y a un changement qui s'est opéré.
And here's another example.
Voici un autre exemple.
40 years ago, people in the United States did not think about the issue of equality of women.
Il y a 40 ans aux États-Unis, les gens ne pensaient pas à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Or the rights of homosexuals.
Ou ne pensaient pas non plus aux droits des homosexuels.
Yeah. In fact, it was a forbidden topic, the rights of homosexuals.
C'était même un sujet tabou il y a 40 ans, le droit des homosexuels.
Now there is a consciousness about that, a consciousness about sexual equality, a consciousness about the right of people to carry out their sexual activities in a free way.
Non, non, il y a une conscience de ça, il y a une conscience de l'égalité sexuelle, du droit à chacun d'avoir ses préférences sexuelles et à pouvoir vivre comme il veut.
Which is an advance over the way it was 40 years ago.
C'est clairement un progrès sur les 40 dernières années.
But I say it is complicated because, you know, you look at the world today.
Malgré tout, c'est compliqué.
And you see violence and war.
Il suffit de regarder le monde d'aujourd'hui et c'est
violence
vrai qu'on voit la guerre, on voit la violence.
And I think you have to have a certain kind of faith that underneath the surface of violence, there's a growing consciousness among people that we must not have war anymore.
Je pense qu'il faut vraiment avoir, je veux dire, une croyance qu'il y a un grand mouvement fort de conscience, en fait, qu'il faut s'opposer à la guerre.
No, there's a difference between what you see on the top. Where the holders of power are, and the slow development of consciousness under the surface.
Il y a un décalage entre ce qu'on voit au-dessus, superficiellement, ce contexte général de guerre, etc., et le mouvement de conscience, en fait, qui existe et qui s'étend en lame de fond, qui se développe.
And then only at certain points in history that consciousness below, which is invisible, breaks through the surface.
Et à certains moments clés de l'histoire, en fait, cette conscience qui se développe en lame de fond éclate au grand jour.
We've seen it in other countries. We've seen it happen, and then we're surprised. We're surprised when suddenly the Berlin Wall falls. Ouais. We're surprised when apartheid ends in South Africa.
On l'a vu dans d'autres parties du monde. On était complètement surpris quand le mur de Berlin est tombé. On l'a vu aussi quand l'apartheid a disparu en Afrique du Sud.
Because under the surface. In South Africa, things were happening that were invisible.
Car sous la surface en Afrique du Sud, des choses importantes étaient en train de se produire.
C'est ce que Walter Benjamin appelait le souterrain des choses.
Yes, exactly.
Mais sur le temps plus long, est-ce que pour vous l'histoire a un sens? Et est-ce qu'on peut lui donner un sens?
My hope. It's a hope.
Mon espoir, c'est un espoir.
More than a scientific analysis.
Plus qu'une analyse scientifique.
Because it's a race. It's a race between the powers of violence and the consciousness, the growing consciousness of people.
Parce qu'il s'agit d'une course, contre la montre entre les forces de la violence, du pouvoir et les forces de cette conscientisation de plus en plus large qui se fait.
And because it's a race, it means we cannot stand aside and watch the race.
C'est pourquoi, puisque il s'agit d'une course, on ne peut pas simplement rester sur le bas-côté et observer.
Because we stand by and watch the race, it will be lost.
Car si on est simplement observateur, tout simplement,
on perdra
la course.
Not only describe history and not only observe history, we must participate in history.
C'est pourquoi on ne peut pas simplement décrire l'histoire, mais on doit y participer.
Et la façon héroïque de raconter l'histoire avec des batailles, des victoires, des armées et des généraux, c'est-à-dire l'histoire telle qu'elle est la plupart du temps racontée par les vainqueurs. Et puis il y a, puisqu'on est en train de parler de l'histoire des États-Unis, la façon dont l'histoire des États-Unis a été popularisée, mais ça n'était pas pour autant l'histoire du peuple américain, l'histoire du peuple des États-Unis d'Amérique. En tout cas, Howard Zinn, avec qui nous sommes aujourd'hui, l'auteur de Une histoire populaire des États-Unis, qui est sorti aux éditions Agon, a un autre point de vue, celui du peuple, celui du quotidien, et la façon dont ce peuple agit et lutte dans l'histoire. Je voudrais, Howard, qu'on continue un peu sur les clichés que les Français, notre culture, nous avons des États-Unis. On a évoqué la figure du noir nord-américain. Rapidement, il y a l'Indien, il y a le cow-boy, le personnage de la mafia, etc. Je dis ça parce que j'évoque ces figures parce que vous dites, moi j'écris une histoire populaire des États-Unis par le bas, par les figures populaires. Après tout, les figures que j'évoque là, le cow-boy, l'indien, le gars de la mafia, enfin, on pourrait parler du GI, du soldat du Vietnam, voilà des personnages qui nous sont familiers. Il y a déjà une histoire populaire des États-Unis à travers le cinéma et à travers la culture, la pop culture.
I suppose there is a false popularization of history.
On peut parler d'une fausse popularisation de l'histoire.
Which perpetuates the way things are.
Une fausse histoire populaire qui du coup perpétue en fait l'état actuel des choses.
Because it's an entertainment and it makes people satisfied and complacent.
Il s'agit de la société du spectacle. Et ça rend les gens complaisants, satisfaits d'eux-mêmes. Mm-hmm.
And that is different than the people's history, which stresses the activities and power and struggles of people.
C'est complètement différent de l'histoire populaire au sens où c'est l'histoire des mouvements par en bas, de l'auto-activité des gens, de l'émancipation des gens.
Mais parlez-moi de certains de ces personnages quand même. Dans mon enfance, l'Amérique, on disait pas les États-Unis, on disait l'Amérique. Il y avait le personnage du cow-boy et de l'Indien.
There were two figures, the cowboy and the Indian, in what was then called not the United States but America.
Le cow-boy était fort, juste et menacé par l'Indien. Et curieusement, en même temps, exactement en même temps, c'était la guerre en Algérie.
Yeah, that's interesting, as I suspect that the Algerians were like the Indians.
C'est intéressant parce que j'imagine que les Algériens étaient à ce moment-là comme les Indiens pour nous.
They did not emerge as human beings.
Ils n'étaient pas présentés, ils n'émergeaient pas comme des êtres humains.
And so if they're not human beings, you can do what anything you want to them.
Du coup, s'ils ne sont pas des êtres humains, on peut faire ce qu'on veut, en fait, avec eux.
And so in the United States, not just the impression in Europe, but in the United States, Indians were caricatures.
C'est pourquoi aux États-Unis, hein, pas simplement en Europe, les Indiens étaient caricaturés.
Yeah. But they were not human beings.
Mais ce n'étaient pas des êtres humains.
And so you could see the strong cowboy as the hero.
C'est pourquoi on pouvait considérer le cow-boy trop fort tel un héros et les Indiens tels des sauvages.
But what is happening today is that the Indian is breaking through that stereotype.
Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comme l'Indien fait exploser ce stéréotype.
Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la vie quotidienne primitive de l'Indien moyen d'autrefois que les légendes qu'on a racontées sur le général Custer. Ce qui m'intéresse, c'est avant tout la façon de vivre des Indiens, et non pas, comment dirais-je, les aventures. Little Bighorn n'a pas constitué une représentation fidèle des rencontres qui se produisaient entre blancs et indiens, Monsieur Crabb. Enfin, c'est-à-dire l'espèce de génocide dont les Indiens ont été les victimes. L'extermination. L'assassinat collectif de toute une population. Car en fait, c'est ce que nous avons fait aux Indiens. Mais bien entendu, il serait très surprenant que le vieux combattant d'Indien que vous étiez ait les mêmes points de vue que moi.
Restez assis là, vous allez entendre des choses instructives.
Howard, vous voudriez que vous nous parliez de notre rapport à notre histoire récente aux uns et aux autres. Les Français, pendant des années, dont nous sortons à peine, ont regardé leur histoire, l'histoire des années noires, des années de la Deuxième Guerre mondiale. Et maintenant, ils mâchent et ils remâchent l'histoire de notre guerre d'Algérie, avec les épisodes de la torture, avec maintenant l'histoire des pieds noirs, des harkis. Alors que on vous cite toujours comme exemple, comme ceux qui sont beaucoup plus francs et beaucoup plus honnêtes vis-à-vis de leur histoire. Parlez-moi de ça, ce rapport.
I think that's a very false impression of history in the United States.
Cette impression est très fausse en fait des États-Unis.
Yeah, because I mean, for instance, the Vietnam War.
Par exemple, la guerre du Vietnam.
Young people today do not know the history of the Vietnam War.
Les jeunes aux États-Unis aujourd'hui ne connaissent pas grand-chose de la guerre du Vietnam.
And You know, I spoke not long ago to, you know, a group of high school students in the United States.
J'ai parlé lors d'un meeting, je me suis adressé à des lycéens aux États-Unis.
They were in an advanced history class.
Ils faisaient partie d'un cours d'histoire avancé, comme on dit.
And I asked, how many people here, how many of your students have heard of the My Lai massacre?
Je leur ai demandé combien parmi vous ont entendu parler du massacre de My Lai.
Yeah. Not one student raised a hand.
Pas un n'a levé la main.
No. So the Vietnam War is studied very quickly, very superficially.
Ah, la guerre du Vietnam est encore étudiée de façon très superficielle et très rapide.
No. And so the, here's another example.
Voilà un autre exemple.
You know. The Hiroshima, the dropping of the bombs on Hiroshima and Nagasaki.
Sur Hiroshima et Nagasaki.
There is no real examination of this in American history courses.
Il y a très peu d'examens minutieux de ces deux bombes atomiques dans les livres d'histoire.
And so, as a result, the impression given to the American public is it was necessary to drop bombs on Hiroshima.
Par conséquent, l'idée qui domine au sein de la population américaine, c'est que il était tout à fait nécessaire, en fait, de lâcher ces deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.
La violence comme une nécessité de l'histoire.
Yeah, unfortunately.
Yes. Howard, c'est ce que vous dites au début de votre livre sur le génocide des Indiens de la conquête.
Yes.
Dans la mémoire, c'est oui, c'était pas gentil, mais enfin, c'était nécessaire.
That is what people gather and learn, you know.
Oui, c'est ce que les gens comprennent de ce qu'ils apprennent.
Because when history has worked itself out in a certain way,
parce qu'une fois que les événements se sont produits d'une certaine façon,
it is very difficult to imagine it happening any other way.
C'est très difficile d'imaginer que ça ait pu se produire différemment.
And so there is an impression of inevitability.
D'où cette impression d'inévitabilité de l'histoire.
Yeah. I think it is the job of thinking people to imagine alternatives.
C'est pourquoi, pour moi, le rôle des penseurs, c'est d'imaginer des alternatives.
C'est de dire qu'il y a des alternatives possibles, déjà.
Yes.
Décoincer les esprits.
Exactly.
C'est tout. C'est déjà beaucoup.
Exactly. Exactly.
Big job.
Yeah. And there is enough history to demonstrate alternatives.
Et il y a suffisamment d'histoire qui permet de démontrer.
I mentioned South Africa.
Je parlais de l'Afrique du Sud tout à l'heure.
You know, if there had been a bloody civil war in South Africa.
S'il y avait eu une guerre civile sanglante en Afrique du Sud.
To end apartheid.
Qui avait abouti à qui avait à la fin de l'apartheid.
Then people would say that was the only way it could be done.
Du coup, les gens auraient conclu que c'était la seule façon.
Or if there were a war against the Soviet Union.
Ou s'il y avait une guerre contre l'Union soviétique.
You know, and the Stalinist regime ended, they would say, well, we had to make war against the Soviet Union in order for change to take place.
Et que cette guerre avait mis à bas l'Union soviétique, on en aurait conclu que c'était la voie ou le passage obligé pour aboutir à la fin de ce régime stalinien.
But we see in both cases in South Africa and in Eastern Europe.
Mais voyez-vous dans ces deux cas,
remarkable changes took place without terrible violence.
En Afrique du Sud comme comme en Europe de l'Est, de grands changements sont advenus sans passer par des mouvements violents sanglants.
But our schools don't teach history that way.
Mais nos écoles ne nous apprennent ne nous enseignent pas l'histoire de cette manière-là.
Yeah. And so in the United States, you see the films about war. Enormous number of films about war, and it gives young people the impression that the only way anything can be accomplished is with war.
Il y a des tonnes de films de guerre, hein. Et du coup, ça donne l'impression aux jeunes aux États-Unis que la seule façon d'accomplir de grandes choses dans l'histoire, c'est à travers des guerres.
Ce que vous prouvez, c'est que c'était différent que ce qu'on nous dit, et donc on peut conclure que on peut faire différemment aujourd'hui.
Yeah, exactly.
Voici les infos, toutes les infos fraîches et approuvées par l'infanterie américaine, l'armée qui sent bon la rose. La vie est belle.
Sommes-nous tous des Américains? Sommes-nous tous des Américanophobes? Ben, il faut d'abord savoir un peu de quoi on cause. Et c'est une occasion avec Howard Zinn, historien, auteur de Une histoire populaire des États-Unis aux éditions Agone. Historien, mais un historien à 80 ans passés, engagé.
I was an activist before I became a historian.
J'étais un militant avant d'être un historien.
Yeah. At the age of 18, I did not go to college. I went to work in a shipyard.
À 18 ans, je suis pas allé à l'université. J'ai travaillé comme docker.
And I was an organizer among shipyard workers.
Et j'étais un syndicaliste qui organisait les dockers.
Un rouge.
Left.
De gauche.
Yeah, I was one of several young radical organizers.
J'étais un de ces jeunes radicaux, en fait.
C'était quelle époque, ça, what?
That was at the beginning of World War II.
Tout début de la Deuxième Guerre mondiale.
And then I entered the Air Force.
Et puis je me suis engagé dans la Deuxième Guerre mondiale.
Yeah. Dans l'aviation?
Dans l'aviation.
I was a bombardier.
Oui, j'étais un bombardier.
And so when
vous voulez dire que vous nous avez bombardés?
Oui.
Yes,
exactly.
Okay. Oublions ça, c'est un détail.
I bombed a little town in France, Royan.
J'ai participé au bombardement d'une petite ville en France, Royan.
Yeah, very almost near the end of the war.
À la toute fin de la guerre, quasi à la fin de la guerre.
I learned a lot from that experience.
J'ai beaucoup appris à travers de cette expérience.
Yeah. Because it was a totally unnecessary bombing.
Parce que c'était absolument inutile de bombarder.
Yeah.
Howard, quand j'étais jeune. Et il y avait à l'entrée de la ville de Royan un grand panneau qui disait Royan, ville bombardée par erreur. Et c'était vous.
Erreur? Non.
Je pense pas que c'était simplement une erreur, ceci. Yeah.
C'était pas une erreur.
It wasn't an error. No.
C'était quoi?
It's very hard to figure out the motives.
Très difficile de comprendre les motifs de ce bombardement.
But several possibilities.
Mais il y a plusieurs possibilités. Yeah.
One thing is clear, it was not necessary for military purposes.
Ce qui est sûr, c'est que d'un point de vue militaire, c'était absolument inutile.
Because it was clear that the war was going to be over in a few weeks.
C'était évident que la guerre allait arriver à sa fin et dans quelques semaines, c'est...
So later, when I began to think about this, and I thought about what were the motives.
Et plus tard, après la guerre, quand je me suis posé la question des motifs de ce bombardement,
I thought one, we were trying out a new type of bomb.
Je me suis dit premièrement, on essayait une bombe de type nouveau.
Napalm.
Napalm.
It was the first use of napalm.
Première fois qu'on a utilisé le napalm.
Sur Royan, c'est le premier endroit où on a essayé le napalm en Europe.
Exactement.
Ah, ah.
Exactement. And that's, it's interesting. Like the atomic bomb.
Comme la bombe atomique, voyez-vous, c'est la même chose.
Another reason is, it is always necessary for the military when they have something to use it.
La deuxième raison, c'est qu'il est toujours nécessaire pour l'armée, quand elle possède quelque chose, de l'utiliser.
We had all these airplanes and all these bombs.
On avait tous ces avions et toutes ces bombes.
They must not be wasted.
On ne devait pas gâcher.
We must use them.
Qu'il fallait utiliser.
Qu'est-ce qu'on fait pour pas gâcher une bombe? On la jette.
Yes. Yes. Yes.
C'est
yes.
C'est quand on la jette pas qu'on la gâche.
Well, of course.